Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut les fous du volant! Le calme est revenu dans les rues de Monaco où la 6e épreuve de la saison s'est achevée et votre podcast consacré à la Formule 1 va évidemment revenir sur ce rendez-vous. Franchement intéressant, grâce notamment au concours de la pluie, mais pas que. Avec une 4e victoire cette saison, Max Verstappen a désormais une voie princière vers une 3e couronne. A-t-il fait le plus dur? Ben, on vous dira ce qu'on en pense avec Stéphane Vrignot qui a couvert ce week-end. Il y a eu beaucoup de choses à dire quand même, Stéphane.
Oui, et on attendait cette première course européenne sur un circuit quand même assez atypique. Mais il y a des enseignements à tirer et dans les 4-5 écuries principales. C'est ça qui est très intéressant. Avant même Barcelone, le rendez-vous tant attendu sur un circuit assez, je dirais, étalon du championnat.
Alors, on va parler aussi de Esteban Ocon, hein, qui était accompagné de deux doubles champions du monde sur le podium avec cette troisième place. Est-ce que ça va permettre à Alpine de se relancer? Est-ce que c'est enfin le rebond tant attendu? Là aussi, on vous dira ce qu'on en pense. Fernando Alonso a donc lui fini deuxième, alors que Monaco était, selon l'Espagnol lui-même, sa plus grande chance de retrouver le chemin de la victoire. Peut-il prendre sa revanche chez lui à Barcelone le week-end prochain? On se posera également la question. On aura donc parlé de ceux qui ont quitté Monaco finalement avec le sourire, mais on parlera aussi de deux pilotes qui sont passés à côté du podium, George Russell qui finit cinquième et Charles Leclerc qui lui a terminé à la 6e place. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière-là, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant, Stéphane, si tu le veux bien, avec cette voie princière, pour ne pas dire voie royale, après cette victoire à Monaco pour Max Verstappen vers une 3e couronne. Il avait la pression parce que Monaco était réputé le circuit où la Red Bull était la plus prenable et qu'il s'était mis une sorte de challenge à ne rien laisser à personne ce week-end. Et Max Verstappen est parvenu à ses fins avec un premier temps vraiment très très fort lors de la qualif où il a vraiment dû s'arracher pour réaliser le meilleur temps. Et d'ailleurs, même après la pole, hein, on sentait qu'il était encore pris par la pression qu'il avait dû se mettre à ce moment-là.
Bah, surtout, c'est qu'il avait fait qu'une séance préparatoire parce que Red Bull s'est complètement planté. Dans les réglages, il n'avait pas anticipé l'impact des bosses sur ce circuit et le grip en général. Et là, en fait, il a travaillé juste sur les essais libres 2, mais alors après, tout était en place. Comme quoi, il ne lui faut pas grand-chose en temps, si tout se passe bien, pour aller à l'essentiel avec une voiture performante. Mais il a sorti un troisième secteur d'anthologie au bout d'un tour assez propre, qui avait commencé de façon assez propre, mais il avait deux dixièmes de retard sur Alonso. Il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a joué avec le feu, clairement. Il est allé au contact des rails. Et d'ailleurs, c'est assez étrange, mais on ne l'avait jamais vu. Un pilote couper autant, raccourcir autant la dernière courbe, c'est quand même assez étrange.
Il a fait de cette ligne droite 84... une vraie ligne droite, en
ouais,
fait.
Pour 84 millièmes, donc on se dit, c'est grâce à ça qu'il a réussi. La vérité est peut-être un petit peu plus nuancée, mais il est allé chercher dans des limites qu'on n'avait pas explorées auparavant. C'est un petit peu le sentiment qui en ressort. C'est juste fabuleux. Ça a été quand même un grand, grand, grand moment. On a en mémoire Ayrton Senna, forcément, quand on pense à Monaco. Mais là, Verstappen était à ce niveau-là samedi.
Ouais, c'est clair. Ce dernier secteur qu'il entame avec 2 dixièmes de retard par rapport à Fernando Alonso est assez exceptionnel, il faut bien le reconnaître. Et le dimanche, ensuite, bah, ça a été du même acabit. Hein. Il remporte ce Grand Prix avec 28 secondes d'avance sur Fernando Alonso à la régulière. Hein. Il n'y a pas eu de safety car.
Ce qui est marrant quand même, c'est qu'il a apprécié, il a redit qu'il avait apprécié cette victoire. On est loin quand même du Verstappen. Qui n'avait pas encore gagné à Monaco, qui expliquait que gagner à Monaco ou en Hongrie, c'était pareil. Bah là, c'est pas tout à fait pareil quand même, et il savoure. Mais,
il mûrit.
Voilà. Mais au bilan, en fait, il nous a sorti quand même un grand numéro samedi et une copie parfaite dimanche. Et c'est au moins ce qu'il fallait parce qu'on en est maintenant à 6 victoires en 6 Grands Prix pour Red Bull. On va dire qu'on s'ennuie un peu, il n'y a pas tellement de suspense, mais il a mis quand même, il a fait quand même une masterclass. Sur les 2 jours. C'est un petit peu ça, finalement, Monaco. Ce qu'on attend, c'est un environnement extrême, un tour chrono extraordinaire sur le sec, et puis un environnement extrêmement compliqué par la pluie le dimanche. Eh bien, il s'est joué de ça. Il est un pilote complet. Et Monaco récompense plus un pilote qu'une voiture. C'est l'enseignement qu'il faut tirer. C'est une exception dans la saison, une exception indispensable.
Exactement. C'est drôle parce que... Tu vois, je te montre, hein. Moi aussi j'ai marqué masterclass sur mes notes. Il a attaqué quand il a voulu, il a géré quand il a fallu, bref, il a dominé ce Grand Prix de Monaco. Il se retrouve désormais avec 39 points d'avance au championnat des pilotes sur un Sergio Pérez qui a clairement perdu pied ce week-end et qui subit la domination de Max Verstappen pour le 2e Grand Prix consécutif. On sent vraiment qu'il y a une pression énorme sur les épaules de Checo. Je trouve que ça se voit physiquement. Il y a plusieurs observateurs dans le paddock qui le disent également. Il y avait aussi la présence de Julian Jacoby ce week-end à Monaco. Je ne sais pas s'il gère toujours encore Sergio Pérez Jacoby. En tout cas, ça fait partie du cercle du Mexicain. Ça n'a pas suffi à lui redonner finalement suffisamment d'aisance. Hein. L'erreur qu'il fait en qualification et qui lui coûte donc de partir dernier sur la grille, en fait, on se demande si ça ne va pas lui coûter tous ses espoirs de titre maintenant.
Oh, je pense que maintenant, on a tourné la page. Clairement, bah, ça fait quand même 2 années de suite qu'il tape à Monaco en qualification. Ça veut dire que c'est quand même assez tendu, mais là c'était une erreur grossière en début de Q1. Helmut Marko a dit que c'était inacceptable avec une voiture, quand on a une Red Bull dans les mains, on ne fait pas ça, et ça l'a affaibli. Et à la fin de ce week-end, donc le conseiller sportif chez Red Bull a dit: j'espère qu'on a fait ce week-end la somme des erreurs pour le reste de la saison.
De la saison, voilà.
Donc il n'a plus du tout de joker.
Je parlais de pression, délicat, là on est bien.
Mais il n'a pas la pression de Ricciardo parce que, effectivement.
Oui, il avait été rhabillé.
Voilà, c'est ça,
pour
il
l'été.
L'a enterré, mais complètement. Et ce pauvre Ricciardo va même avoir du mal à trouver un volant après des critiques comme ça. Mais il faut qu'il se remette en question.
Alors, il y a un élément que tu voulais soulever, Stéphane, pendant le Grand Prix concernant Sergio Pérez.
La seule chose qui m'a intéressé dans sa course, c'est quand il a essayé de profiter, tu sais, de la scène au 34e tour, lorsque Verstappen a pris un tour à Stroll et Pérez était en bagarre avec Stroll à la chicane, et il a essayé de passer en même temps. Et là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il y a comme une distorsion de concurrence, parce que on ne doit pas faire la course avec un retardataire qui est lui-même dépassé par le leader. C'est un peu trop. Et sur ces drapeaux bleus, je dirais que ces drapeaux bleus devraient être doublés d'une sorte de drapeau jaune pour les retardataires, en leur demandant d'ouvrir la porte au leader et en même temps de geler les positions par rapport
à ceux qui sont un retardataire,
voilà, qui ne sont pas dans la même course. Parce qu'on a vu déjà des choses, des arrangements même, hein, quand on laisse passer quelqu'un entre coéquipiers. Et là, c'est peut-être quelque chose que la FIA peut regarder de près, parce que tôt ou tard, effectivement, ça mènera encore à des petites catastrophes.
On en revient à Max Verstappen quand même, parce qu'on en est désormais à 39 victoires. Pour Max Verstappen, 39 victoires évidemment sous les couleurs de Red Bull. Il a donc dépassé Sébastien Vettel,
incroyable,
qui lui avait remporté 38 victoires sous les couleurs de Red Bull, auxquelles il faut ajouter celle obtenue, la première dans la carrière de l'Allemand chez Toro Rosso, et puis les 14 autres chez Ferrari. Mais c'est donc donc désormais le pilote qui a fait gagner le plus grand nombre de fois Red Bull. Il est en avance sur tous les temps de passage. Et pour les fans de statistiques, Stéphane, Max Verstappen, il a franchi le cap des 2000 tours menés en course. Et il devient le septième dans ce classement.
Il lui en manquait un et c'était bon. Mais alors, Sébastien Vettel a quand même fait son palmarès chez Red Bull en termes de victoire, je crois, uniquement entre 2009 et 2013. Ouais. Je ne sais pas s'il remporte une course en 2014, je ne suis pas sûr. Verstappen a commencé son palmarès, a ouvert son palmarès chez Red Bull en 2016, donc c'est la huitième saison quand même. Hein. On ne s'en aperçoit pas. On a l'impression qu'il est jeune, mais ça commence à être un taulier et il rentre un petit peu dans les pilotes de la force de l'âge. C'est plus un jeune loup qui arrive, c'est vraiment un pilote établi. Et donc, c'est un petit peu normal tout ça, mais il n'a que deux titres mondiaux. Vettel a remporté 38 victoires, 4 titres mondiaux. Ça veut dire qu'effectivement, il avance un petit peu plus vite. C'est un petit peu dommage pour le suspense, je dirais, mais la F1 est une méritocratie et s'il doit encore gagner la plupart des Grands Prix d'ici à la fin de la saison, écoute,
ce qui paraît très probable.
Voilà, tout à fait, ce serait logique. Et puis, on attendra que les autres réagissent. Alors, il y a une petite chose aussi, deux petites choses qu'ont mentionné ce week-end les gens chez Red Bull. Max Verstappen a dit que les voitures, qu'il fallait peut-être revoir un petit peu le design des voitures qu'il trouvait trop raides. Et il y a d'autres pilotes qui se sont plaints de ces fameuses bosses, des réactions des voitures sur les bosses. Et puis, deuxième chose, et on en parlait juste avant de la préparation dans un épisode présent des Fous du Volant avec Jackie Clart, il faudrait peut-être revoir le tracé même de Monaco. En tous les cas, c'est ce qu'a demandé Christian Horner, le directeur d'équipe de Red Bull, qui a dit on ne peut pas continuer comme ça. La piste, le circuit en lui-même a beaucoup évolué en termes d'accueil, en termes d'infrastructure, mais on n'a pas touché à la piste et il ne faut pas non plus que ce soit un tabou. Et je repensais justement ce week-end à ce que nous avait suggéré Jackie Clart, ancien ingénieur en Formule 1 de Jenson Button et de Kimi Raikkonen, qui nous disait il faudrait peut-être repousser, ne supprimer cette chicane à la sortie du tunnel et repousser ce point de freinage obligé au virage du bureau de tabac. Ça ferait une distance supplémentaire, je ne sais pas combien, 200, 250 mètres, 300 mètres, et ça apporterait peut-être des opportunités différentes de dépassement.
Ouais, le problème, c'est que c'est un coefficient en fait. Plus tu arrives vite, plus il faut de zones de dégagement. Cette chicane à la sortie du
elle est très pratique
à la
pour
sortie
ça.
Du tunnel, il y a une zone de dégagement. Les pilotes peuvent aller tout droit. On se souvient de l'accident terrible
de Jenson Button et Rinninger aussi.
Et là, si tu enlèves cette chicane, ça veut dire qu'ils font un dégagement encore plus grand. Et je vois pas où on peut le mettre. Mais c'est vrai qu'il faut y réfléchir et qu'il faut pas se donner de tabou.
C'est un peu compliqué parce qu'il y a une rangée d'arbres effectivement qui partage cet échappatoire aujourd'hui de la piste. Bon, mais il y a
et qu'à ma connaissance, on peut pas y toucher à ces arbres d'ailleurs. Et tant mieux. Je confirme, il y avait pas eu de victoire pour Sébastien Vettel en 2014. J'ai vérifié pendant que tu parlais. On va répondre à la question. Est-ce qu'il a fait le plus dur maintenant? Max Verstappen vers un troisième titre.
Il lui faudrait un coéquipier qui soit capable de le challenger, ça n'est plus le cas, clairement. Donc là, il a la voie libre. Perez va redevenir un numéro 2, s'il ne l'était pas avant.
Je crois qu'il y en a un qui postule, vous allez voir, il y en a un qui tape l'incruste sur les photos chez Red Bull. On va en parler un petit peu plus tard dans ce podcast. Moi aussi, je pense que clairement il a fait le plus dur parce que c'est bien de résister quelques grands prix. Ce qu'a fait Sergio Perez, c'est magnifique, mais c'est là qu'on voit quand même que pour tenir le choc au fur et à mesure des semaines, avec les grands prix qui sont annulés, avec tout ce qui change dans l'environnement d'un pilote d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, c'est quand même très très compliqué. Et oui, Max Verstappen a sans doute fait le plus dur vers une troisième couronne. On peut se tromper, quand même, ça paraît très très bien parti. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui avec Stéphane Vrigno dans Les Fous du Volant, après ce Grand Prix de Monaco, c'est Alpine. Alpine de nouveau sur le podium d'un Grand Prix. trois semaines, après le gros coup de gueule de Laurent Rossi à Miami, qui avait notamment dénoncé, moi c'est ce qui m'avait le plus marqué, hein, le manque de rigueur dans cette équipe, le côté un petit peu dilettante, eh bien Esteban Ocon est monté sur le podium de ce Grand Prix de Monaco, notamment grâce à une exceptionnelle prestation en qualification. Ocon, 11e en Q1, pas mal. 8e en Q2, on se dit ça commence à être intéressant, et puis donc 4e temps en Q3. Il va ensuite profiter de la pénalité de Charles Leclerc pour être promu à la 3e place sur la grille de départ, place qu'il est parvenu à conserver à l'issue de cette course. On a le sentiment qu'il a franchi un cap, Esteban Ocon, cette saison. Est-ce que c'est le départ de Fernando Alonso qui finalement a émancipé le Normand? Ce qui se dit, c'est qu'il a redoublé d'efforts, redoublé de travail aussi depuis le début de la saison, et ça finit par payer, Stéphane. Ça commence à se voir maintenant.
Ça se voit effectivement dans l'ambiance même chez Alpine, qui a tourné la page, je pense, des années Alonso, qui était encore dans toutes les mémoires. Même s'il était deuxième sur le podium, il a fait un Grand Prix encore extraordinaire, mais ouais. On a maintenant d'autres pilotes qui sont capables de réussir, de faire des choses très intéressantes. Avec Pierre Gasly, ils ont marqué 21 points. Si je compte bien, c'est 18 points pour Aston Martin, et une équipe, c'est deux pilotes. Et chez Aston Martin, ils ont Fernando Alonso, mais ils n'ont pas réellement de deuxième pilote. Ça veut dire que maintenant, on construit sur quelque chose de cohérent. Et là, ça va, je pense, mener à une émulation. En tous les cas, ça va décontracter un petit peu tout le monde, parce que Otmar Szafnauer avait été ciblé indirectement par Laurent Rossi avant le Grand Prix Miami, qui avait été un petit rebond intéressant, encourageant pour l'équipe. Ils avaient fait 9e et 10e, je crois. Et, les deux pilotes avaient marqué des points, c'était bien. Et Szafnauer, avant ce Grand Prix de Monaco, avait fait quand même une petite mise au point en disant, en conférence de presse vendredi, la pression, je connais, ça fait partie du métier, ça fait 25 ans que je suis dans le business, à des postes de direction.
Oui, hein. Oui.
Donc, ça rigole pas. Et puis, il avait quand même dit aussi quelque chose, il a envoyé un petit tacle au bureau d'études et à Enstone, en disant jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas une Red Bull. Donc ça veut dire que c'est aussi aux techniciens d'apporter des pièces, d'opérer des améliorations pour mener à ce podium. Alors moi je trouve que Ocon a fait son plus beau Grand Prix, sa plus belle qualif et sa plus belle course ce week-end. Il s'était classé, il était parti sur la grille troisième précédemment, mais dans des circonstances un petit peu particulières, avec l'aide, la pluie c'est pas une aide, hein, c'est un challenge supplémentaire.
Quand on voit les images, c'est
avec des pénalités
pas une aide.
Qu'il avait fait remonter mécaniquement jusqu'à la troisième place de la grille, il avait eu son seul mérite pour lui à Spa l'année suivante, mais là encore la pluie était intervenue, et là dans un exercice vraiment d'équilibriste, ouais, sur le sec, il a montré qu'il était quand même un gros calibre par rapport à des gens, on le rappelle, comme Verstappen, Alonso.
Oui, il
Leclerc.
Est quand même bien accompagné,
voilà,
sur le podium. Après, il y a...
Et puis dimanche, inflexible comme on connaît. Et dès lors que les deux premiers étaient loin, en fait, je dirais, lui, il n'avait qu'à faire du pilotage défensif. Et on sait qu'il tient très bien dans ces conditions-là. Donc, on était presque tranquille.
Oui, alors, sauf que, on est très content du podium d'Alpine, mais il y a quand même eu un petit peu de réussite pour arriver à cette troisième place. On l'a dit déjà, il gagne un rang, enfin pas un rang, une place sur la grille de départ suite à la pénalité de Charles Leclerc.
Alors je ne suis pas d'accord là-dessus, parce que quand tu es pilote ou quand tu es une écurie, tu dois respecter le règlement.
Ah non, mais ça je suis parfaitement d'accord.
Tu respectes le règlement technique, le règlement sportif, le règlement financier.
Non mais je ne conteste pas la
pénalité. Et c'est un ensemble de choses, c'est un comportement en piste aussi.
Je ne conteste pas la justification de la pénalité. Je dis
Tout à fait, mais si
Charles Leclerc prend pas cette pénalité, la course de Esteban Ocon peut être vraiment différente. Il y a ce premier déjà, on va dire petit coup de pouce, le contact avec Carlos Sainz. Alors là, pour le coup, ça aurait été vraiment de la malchance d'abandonner le contact de Carlos Sainz qui loupe son freinage à la sortie du tunnel et qui vient percuter l'arrière de l'Alpine. On a déjà vu des voitures abandonner ou être victimes de crevaison pour nettement moins que ça, et presque par miracle, ça a tenu, tant mieux, encore une fois, je le dis, hein, tant mieux, mais là aussi, petit coup de pouce du destin, on se dit, oh, quand même, c'est pas mal. Et puis, il y a finalement cette erreur de George Russell, qui, il y a eu un petit souci au moment du changement de pneumatique pour Esteban Ocon. George Russell a la possibilité d'en profiter, et il fait sa boulette à Mirabeau, et c'est ce qui permet aussi à Esteban Ocon. Ouais, alors vous allez me dire, lui il n'a pas fait de boulette. Voilà, ouais, exactement.
On est d'accord, tout à
donc,
fait.
C'est pour ça que je dis, c'est de la réussite. Après, on a déjà eu ce débat dans les fous du volant. La réussite, c'est se mettre en position optimale pour profiter. Alpine est dans une situation en ce moment où on ne peut faire que des coups, parce que la voiture n'est pas encore au niveau de la Red Bull, évidemment. Pas encore au niveau de l'Aston Martin et non plus de celle de la Mercedes.
Mais je te redis, moi, je trouve qu'il a fait son plus beau Grand Prix. Il en a remporté un en Hongrie.
Je suis d'accord.
En 2021, sur quand même un énorme carton signé Bottas.
Virage,
on s'en souvient
au premier virage
de Bottas. Et puis aussi dans des circonstances vraiment où il y a eu plusieurs abandons à Sakhir en 2020 où il termine deuxième. Et là, il n'y a rien à dire, il le fait
Monaco.
Encore sur son pilotage.
Et c'est Monaco, et comme tu le dis, la boulette de Russell, elle prouve bien, et on a vu, Sainz aussi est parti à la faute. On ne va pas compter ceux qui sont fait mettre hors jeu pendant ce Grand Prix, mais clairement, lui a tenu avec la pression, c'est vrai. Et ce podium fait du bien. Et alors, ce qui est d'autant plus important, Stéphane, c'est que c'est la 50e épreuve disputée par cette équipe sous l'appellation Alpine. Rappelle-toi, elle plane, c'était 100 Grand Prix. On est donc à la moitié du parcours. Quelque part, aller piocher un podium juste à ce moment-là, je trouve que c'est assez symbolique.
Oui. Eh ben, c'était en plus l'endroit tout désigné pour ça, parce qu'on va voir ce qui va se passer à Montmélo, mais ça va être peut-être un dur retour à l'arrêté pour se battre pour une quatrième ligne. Et puis des places de 7 et 8 à l'arrivée, mais ce qui sera encore une fois très bien, parce que dans une logique de progression, je rappelle-toi les premiers mots d'Esteban Ocon à l'arrivée, quand David Coulthard l'interroge, il dit c'est la petite araignée qui monte, qui grimpe sur le podium. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on grappille, on progresse et on arrive. On arrive progressivement, c'est pas un bond spontané comme l'a fait Aston Martin, mais on sait maintenant, je pense, où on en est chez Alpine, et lui, il a dit ça, c'est bien. Et puis, maintenant, c'est émulation, hein, franchement, avec Gasly, qui est sorti assez frustré du plan de course d'Alpine, de ce qu'on lui a proposé, c'est vrai, globalement, parce qu'Alpine s'est arrêté un petit peu, l'arrêter trop tard, donc c'est un petit peu tout gâché pour lui, mais maintenant...
Trop tôt, en fait. On était un peu entre deux eaux, là, chez Alpine, mais effectivement, il y a quelque chose de mieux. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que finalement, Alpine a amené à Monaco les évolutions qui étaient prévues à l'origine pour Imola. On sait que ce Grand Prix a été annulé. Il y a un nombre d'améliorations sur l'Alpine ce week-end qui est assez impressionnant, avec l'ensemble aileron arrière et rear beam, le beam wing, pardon. Oui. Ça va de pair, hein, c'est l'aéro du train arrière. Nouvelle suspension à l'avant, nouvelle étrave sur le plancher et des nouveaux flancs. C'est passé un petit peu sous les radars, mais n'empêche que cette auto, elle a beaucoup évolué. C'est quand même pas facile. Ça aussi, ça explique aussi éventuellement les difficultés de Pierre Gasly. Pierre Gasly, il découvre une équipe, il découvre une voiture qui évolue. Faut réussir à retrouver ses marques dans ce contexte.
Il n'était pas très à l'aise d'ailleurs aux essais, parce qu'il encaisse quand même une demi-seconde d'Esteban Ocon.
Mais il a fait un super week-end.
Hein, ouais. Et je regarde sa stratégie. Alors effectivement, ils l'ont arrêté au 47e tour d'une façon un petit peu étrange. C'est bien dans une fenêtre pour une utilisation des pneus durs pour démarrer, mais la pluie arrivait. C'est assez étrange. Et c'est là qu'il a fallu qu'il rentre 7 tours plus tard pour des pneus pluie, ce qui l'a fait pester. Bon. Mais Pierre Gasly signe quand même le troisième temps en course, ce qu'il faut noter, ce qui est pas mal du tout.
C'est un très très bon point pour Alpine, ça.
Oui.
Pour Pierre Gasly, évidemment, mais pour Alpine surtout.
Tout à fait. Mais je pense maintenant qu'il va falloir se pencher un petit peu sur ce qui se passe pour lui à bord de cette voiture, parce que ça fait quand même plusieurs Grands Prix qu'il dit que globalement il trouve pas le grip, quoi. Tout simplement.
Ça sera probablement le chantier principal.
Alors quand on vous dit qu'il trouve pas le grip, ça veut dire que il n'arrive pas à faire chauffer correctement les pneus et les amener dans la bonne fenêtre de température, ou garder préserver la voiture dans cette fenêtre.
C'est le prochain chantier des hommes de Laurent Rossi, pour vraiment passer de l'équipe, je le disais, qui pour l'instant cherche à faire des coups, à une équipe qui régulièrement va aller chercher des top 5, des top 3, des podiums, hein, pour être clair, pour respecter El Plan.
Bah, tout à fait, et tu vois, tu parlais Alonso. Alonso, il était à l'origine du dernier gros coup d'Alpine au Qatar en 2021. Ils avaient marqué les 15 points d'Alonso pour la troisième place et les 10 points d'Ocon. Donc ça faisait 25 points. Donc ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas fait un tel tiers groupé. C'est intéressant. C'est l'histoire qui reprend, et c'est Alonso. Et j'espère vraiment, vraiment que maintenant, on va nous plus avoir cette nostalgie d'Alonso. Il faut avancer.
Bah justement, on évoquait le cas du pilote espagnol. On va parler de Fernando Alonso. Et rarement un second aura pris autant la lumière que Fernand ce week-end à Monaco. Il s'est incliné pour 80 millième, quelque chose comme ça, en qualification.
84, ouais, oui.
C'est rien. Un combat exceptionnel face à Max Verstappen lors de la qualification.
Exceptionnel, et c'est là où on sent qu'il a exploité toute la quintessence de sa voiture, qu'il ne pouvait pas faire mieux. L'organisation, par rapport aux data, là, a découpé le circuit, là, nous a fourni une track domination en 10 portions de circuit. Eh bien, il y en a 5 où Verstappen a dominé et 5 où Alonso a dominé. Et c'est une forme d'alternance qu'on voit. Donc, ça veut dire que Alonso n'avait pas tout mis sur les deux premiers secteurs et s'est écroulé dans le troisième, parce que Verstappen est allé chercher 2 dixièmes qui lui manquaient dans ce troisième secteur, mais qu'il avait fait quelque chose d'équilibré, qu'il était au maximum des possibilités de sa voiture. Ça veut dire qu'à presque 42 ans, c'est juste fabuleux. Et je regardais, bon, deuxième en qualif, deuxième en course. Moi, je me souvenais d'une victoire de Nigel Mansell dans l'ère moderne, on va dire en 94. Il avait juste 41 ans. Alonso va sur ses 42 ans. Il y avait Jack Brabham qui avait gagné, mais dans un temps un petit peu plus ancien. En 1970, en Afrique du Sud, j'ai vu, il avait presque 44 ans. Et là, maintenant, on se prend à rêver. Hein. On se dit, chez Aston Martin, on a signé le deal avec Honda. On dit, en 2026, avec Fernando et le moteur Honda, on sera bien. Bon. On attend de voir, c'est dans 3 ans, mais en tous les cas, ils ont réussi un joli coup là aussi, ils préparent l'avenir, il y a des bonnes choses qui s'annoncent, et Lawrence Stroll a quand même compris, donc le boss, le patron de l'écurie, qu'il fallait avoir un moteur d'usine. C'était impératif, et ça, je crois que Zach Brown ne l'a pas bien compris chez McLaren. Et deuxième chose quand même, c'est que là, ce moteur Mercedes qui s'en va de chez Aston Martin, indirectement, c'est une perte d'influence aussi. Déjà, on l'avait vu en termes de résultats, mais une perte d'influence au plan politique pour Toto Wolff, parce que ça fait un vote de moins quand on décide d'une nouvelle mesure en Formule 1. Eh bien, on sait que les écuries clientes s'alignent sur leurs fournisseurs de moteurs. Bon, voilà, c'est la conséquence. Donc, c'est en train de... Il y a des choses quand même qui bougent. Hein. Il fait bouger les lignes, en fait, Lawrence Stroll.
On revient sur ce Grand Prix de Monaco avec, finalement, une attitude très agressive dans le bon sens du terme, hein, de Aston Martin, de Fernando Alonso. Ils ont été proactifs, avec d'abord le choix sur la grille de départ de partir en pneus durs.
Peut-être regardé ma statistique, qui est épouvantable, on va dire ça comme ça. Depuis 2011, les deux premiers de la grille virent en tête, dans cet ordre, au premier virage, au départ. Voilà. Donc lui savait qu'il avait quasiment zéro chance sur 114 mètres de run jusqu'au premier virage. Donc il s'est dit, je prends le contre-pied, je commence à prendre le contre-pied de Verstappen qui part en médium, et lui choisit les durs.
Moi j'ai adoré ça, parce que ça veut dire que vraiment chez Aston, on regarde Red Bull dans les yeux en termes de stratégie. On sait que Red Bull, quand même, ils ont fait des coups stratégiques ces dernières années, quand ils étaient même en difficulté avec leur voiture au niveau de performance par rapport à Mercedes et par rapport à Ferrari. Ça reste quand même une équipe très très inspirée en termes de stratégie. Et là, on voit qu'Aston Martin, ils ont envie de tenter des choses.
Mais même complètement, parce que, alors, Il y a quelque chose de très très bizarre, c'est qu'à la radio, on en reviendra aussi pour Ferrari au 30e passage, ça commence à discuter dans toutes les écuries sur l'arrivée de la pluie, quand, comment, machin. Il y a McLaren qui envoie même quelque chose d'assez précis. Et au 49e tour, on voit sur...
qui était très précis, mais qui était très très faux. Hein.
Tout à fait. Ils envoient que la météo ne prévoit pas d'averse dans le quart d'heure qui suit, je crois. Bref, donc on n'y croit pas. Et de toute façon, Fernando Alonso, il dit, nous... On en a discuté avec l'équipe. Je suis rentré, j'ai pris des pneus médiums. Je crois que c'était au 54e ou 55e tour. Il commençait à pleuvoir. Et lui, en fait, il fait ce pari-là. C'est un pari assez fou quand même parce que Verstappen est toujours en piste et il ne peut pas le contrer comme ça s'il s'arrête en premier. Bon, c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est qu'il est parti en dur et il a attendu le dernier moment pour que Verstappen s'arrête. Mais là, en fait, il joue avec le feu parce qu'un tour plus tard, il faut qu'il reprenne des pneus intermédiaires.
Ouais, mais alors... Effectivement, on peut se dire qu'ils ont loupé le coche à ce moment-là. De toute façon, à stratégie égale, Fernando Alonso était derrière. Donc, il fallait mettre un coup de pied dans la table et voir ce qui allait se passer. Ça n'a pas basculé du côté de Aston Martin. Mais honnêtement, moi, j'ai bien aimé cette attitude où vraiment, on essaye quelque chose. Quoi. On ne se dit pas, ah ben non, il n'y a rien à faire, on ne va pas y arriver. Et Fernando Alonso, en fait, je me demande et je te pose la question, est-ce que ce n'est pas le vrai rival pour Max Verstappen au niveau du championnat? Parce que certes, Sergio Pérez est toujours deuxième du championnat avec 39 points de retard sur Max Verstappen, mais Fernando Alonso, il est sur les talons du Mexicain maintenant. Il a une douzaine de points de retard sur Sergio Pérez. Ça fait 51 points de retard par rapport à Max Verstappen en 6 Grands Prix, c'est quand même énorme. Mais est-ce que c'est pas lui?
Fernando compte aussi les points bonus du meilleur tour. Donc, deux victoires assorties du point bonus du meilleur tour, ça fait 52 points. Donc, lui, il calcule comme ça, je m'explique.
Oui. Associé à un résultat blanc.
Bien sûr,
face.
À l'arrivée, enfin, après en conférence de presse, il a dit Pérez a eu des problèmes, mais Verstappen pourrait aussi en avoir. Bon, on sait que voilà, ça peut casser, il peut y avoir des problèmes techniques. Et moi, il dit, moi, je suis là. Et je me souviens qu'en 2010, je n'avais pas la meilleure voiture. Je me suis battu jusqu'au dernier Grand Prix pour le titre. Idem en 2012, il n'avait pas la meilleure voiture. Il aurait pu être champion du monde. Ça veut dire qu'il dit, moi, je suis encore je suis un challenger.
Est-ce qu'il y
j'y
croit,
crois,
est-ce qu'il y croit vraiment ou est-ce que c'est une façon de venir piquer Red Bull c'est pas fait, les gars, celui-là.
C'est pas Red Bull qui pique, c'est son équipe qui le galvanise. Parce que son équipe n'a jamais connu ça. Elle rêvait à une victoire auparavant. Le podium est devenu un standard, 5 en 6 Grands Prix quand même. Et là aussi, c'est pareil, c'est que maintenant, on a envie d'être un peu plus transgressif parce que cette attitude du contre-pied, eh bien, c'est venu d'une réunion. Il a dit, les gars, en fait, nous, on fait des podiums. Maintenant, c'est devenu un petit peu affaire courante. Mmh. La routine, là, maintenant, c'est tout ou rien. Et on va tenter quelque chose de complètement décalé. Et il les emmène avec lui. Mais c'est fabuleux. Ils y croient, tout le monde y croit. Je te dis, le directeur d'équipe parle d'Alonso pour en 2026. Enfin, c'est un délire total. Et lui, il dit, bon, si Verstappen a deux grands prix, je dirais, ou deux abandons, tout simplement, ou deux mauvais résultats, eh bien, moi, je peux passer en tête ou je peux revenir à sa hauteur, en tous les cas, sur deux victoires. Ce qui n'est pas complètement extravagant, mais il est quand même assez réaliste en même temps, en disant, il y a encore quand même des grands prix cette année où on terminera 7e et 8e à la régulière. J'irais plutôt 7e parce que Stroll, maintenant, je ne sais pas trop où il est.
Il est un petit peu perdu, tout à fait.
Et il est un petit peu tout seul. Donc, on va voir.
Justement, c'était le point suivant. On est connecté, Stéphane. C'est magnifique. C'est même presque émouvant. J'ai envie de pleurer. Je voudrais qu'on évoque une sorte de dynamique en trompe-l'œil chez Aston Martin, qui a perdu 10 points quand même sur cette course à Monaco par rapport à Mercedes. Alors, pas à Monaco et à Miami. Et il n'y a plus qu'un point d'avance au classement des constructeurs pour Aston Martin sur Mercedes, qui a elle aussi amené les évolutions, évidemment, énorme évolution sur la Mercedes à Monaco. Parce qu'il n'y a qu'une voiture, en fait. Ça fait 3 fois à Monaco, en 6 courses, qu'une seule des deux Aston ne marque des points. À chaque fois, c'est évidemment Fernando. Une seule voiture qui marque des points, c'est arrivé une fois pour Mercedes, et c'est arrivé une seule fois aussi pour Red Bull, sur ce Grand Prix, précisément avec la 16e place de Sergio Pérez. En fait, Stroll, pour résumer, Stroll, c'est à la fois la force et la faiblesse de Aston Martin. Lawrence Stroll, c'est la force de Aston Martin. Et Lance Stroll, c'est la faiblesse. On le sent finalement de plus en plus perdu. C'est-à-dire que plus l'Aston Martin avance vite, plus Stroll a du mal à suivre.
Il a été battu pour la sixième fois en six séances de qualification par Alonso. Il n'a pas fait une seule Q3 à Monaco. Stroll, ça veut dire que c'était pas son, il est pas à l'aise là-bas et pourtant hein, c'est voilà, c'est une partie de pilotage.
Il y a eu une séance d'essai libre où il a fait un chrono.
Oui,
dit, tiens,
tout à fait.
Ah, ça y est, et ben non.
Oui, bah, c'est-à-dire que là après c'est toujours pareil, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose de graduel, ça sert à rien de s'exciter en essai libre 1 ou essai libre 2, donc c'est plutôt le samedi après-midi qu'on voit ce qui se passe. Et
surtout à Monaco.
Tout à fait, et là je trouve qu'il est assez dilettante, il est assez dilettante et je pense qu'il va finir par poser un problème. Je pense qu'à un moment, papa va s'énerver.
Est-ce que c'est pas déjà le cas entre nous?
Est-ce que
Aston aurait pas besoin, là, avec un Fernando Alonso, d'un deuxième pilote? Allez, tiens, je mets les pieds dans le plat. Un Daniel Ricciardo, il serait pas utile chez Aston Martin? Je prends un drôle d'exemple. Mais
non, mais il serait peut-être mieux que Lance Stroll. Le line-up auquel rêvent les Japonais à partir de 2026 en disant nous, on a toujours un pilote du cru dans la voiture qui est propulsé par un moteur Honda. Donc ils imaginent, eux, une équipe Stroll Tsunoda en 2026.
Stroll Tsunoda?
Très,
ah,
très,
oui,
chaud. Oui, oui, tout à fait. Donc, non, là ça. Ça commence à se voir. Il avait l'excuse du premier Grand Prix. Il s'est un petit peu foulé les chevilles et les poignets. C'est vrai qu'il a certainement eu du mérite pour faire ce Grand Prix en ouverture de la saison alors qu'il n'était pas sûr de participer. Et puis après, en fait, on n'a pas vu que ça changeait grand-chose. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Là, il est remis.
Il est en pleine forme et pourtant, les résultats sont pareils. Donc, ouais. Et puis, il y a une certaine quand même désinvolture. Il a un langage familier quand il s'exprime devant les médias. Bon, en fait, moi, ça me fait rigoler parce qu'il balance ce qu'il pense, c'est tout simplement. Donc, je le trouve plus marrant, je dirais, que Raikkonen là-dessus. Ouais. Parce que
c'est pas difficile, tu vas dire.
Donc,
aussi, Raikkonen était drôle dans ses radios.
Oui, mais on va voir parce que là, maintenant, en fait... Aston Martin, ils sont la deuxième force du plateau et ils vont certainement terminer quatrième force du plateau.
Bah, à force de n'avoir qu'un seul représentant,
ça va être un vrai gâchis.
Ça va commencer à devenir très très compliqué. Hein. Lance Stroll, évidemment que c'est compliqué d'assumer la comparaison avec un Fernando Alonso. On le sait et Esteban Ocon s'en est très très bien sorti l'année dernière.
Ce qui est complètement bizarre, c'est que il essaie vraiment de passer ses sergents, en fait, à l'épingle, au virage numéro 1. Mais c'est,
et puis deux fois. Hein.
Ouais, c'est...
C'est assez curieux. C'est pour ça, je me demande, oui, effectivement, comment on va pouvoir faire du côté de Aston. Alors, est-ce que c'est véritablement un problème? Est-ce que Aston, aujourd'hui, cherche le classement des constructeurs ou cherche à aller chercher sa première victoire en Formule 1 avec Fernando Alonso? Je pense que si tu dis à Laurent Stroll, le propriétaire de l'équipe, alors soit vous terminez deuxième au classement des constructeurs, soit vous avez votre victoire avec Fernando Alonso, il va choisir la victoire avec Fernando Alonso, quitte
ça,
à laisser
ce
la deuxième
reste dans
place.
Les palmarès. Hein.
Oui, parce que finalement, que Mercedes soit devant Aston Martin au classement des constructeurs, c'est normal. Donc, pour l'instant, est-ce qu'il y a véritablement un problème? Je ne suis pas sûr. Et est-ce que Fernando Alonso peut aller prendre sa revanche à Barcelone, Stéphane?
Alors, c'est un circuit, alors je l'ai dit, circuit étalon, c'est, oui, c'est vraiment ça le terme, circuit de pilote. Je crois même que c'est Alain Prost qui a conseillé le designer, grande courbe en appui. Ils ont enlevé cette fameuse chicane là, qui était une balafre sur le circuit dans le dernier virage. Donc ça, c'est quand même assez sympa et ça va passer plus vite. Ça veut dire que c'est une chance de plus pour la Red Bull de s'exprimer sur les longs virages en appui, sur la vitesse de pointe, sur le DRS. Elle va retrouver toutes ses forces. Et puis Verstappen, je pense, va continuer de dominer le coude à la portière. Et dans tout ça, derrière, ça va être une belle lutte pour la deuxième ou la troisième place entre Aston Martin, Ferrari, Mercedes. Mercedes qui est passé devant Ferrari maintenant. Mais je ne vois pas... déjà, si Alonso est sur le podium, ça sera une fête. 10 ans après sa victoire à Montmelo, ça sera assez formidable. Et je pense qu'il faudrait quand même un événement exceptionnel pour que Alonso gagne.
On est bien d'accord. On va évoquer maintenant le sort de de deux pilotes qui ont quitté Monaco. Alors, je suis pas sûr que Charles Leclerc ait déjà quitté Monaco, vu qu'il est monégasque, il a dû s'octroyer quand même quelques jours de repos avant d'aller à Barcelone. Mais on va parler de Charles Leclerc et de George Russell, qui tour à tour ont manqué finalement l'occasion de rejoindre Max Verstappen et Fernando Alonso sur le podium de ce Grand Prix de Monaco. On peut commencer par Charles Leclerc. Charles Leclerc qui était troisième à l'issue de la séance des qualifications, troisième chrono à un tout petit peu plus d'un dixième par rapport à Max Verstappen. C'était une qualification
106 millième, ouais, c'est fabuleux,
assez
quand même.
Exceptionnel, ouais. Et qui ensuite va prendre donc une pénalité pour avoir gêné Lando Norris dans le tour de qualification. Il m'a fait une drôle d'impression, Charles Leclerc, ce week-end, et surtout à partir de la qualification, un brin fataliste. Comme si cette troisième place, il s'était dit « bon, ça y est, c'est perdu ». Un petit peu en dedans, moi, il me donne le sentiment en fait, d'avoir déjà fait son deuil de cette SF23, d'en avoir fait le tour, et de savoir que cette monoplace est devenue sa limite cette saison, qu'il ne pourra pas aller évidemment chercher le titre, mais... ça y est. Pour moi, il est déjà passé à autre chose.
Il a 42 points au championnat. Verstappen en a 144. Il est 7e du championnat. Donc là, il n'a plus d'ambition, sinon d'essayer de signer quand même une victoire. C'est redevenu un peu son objectif. C'est vrai. Et moi, j'ai trouvé un petit peu sa communication... je trouvais que ça sonnait faux un petit peu ce qu'il a dit à la fin, parce que ils sont passés à côté de quelque chose en termes de stratégie. On les attendait un petit peu parce que ça avait été le premier couac l'année dernière
oui, avec la stratégie de Ferrari à Monaco, voilà. Ça avait Mattia été quand Binotto. Même assez incroyable.
Et moi ce que je vois quand on nous annonce en fait les types de pneus, je me dis Ferrari a mis tous ses œufs dans le même panier. Les deux pilotes vont partir en pneus durs. Et chez Mercedes, on a réparti les risques, Hamilton étant médium, Russell en dur. Même chose pour Ocon et Gasly chez Alpine, médium et dur. Et même chose aussi, j'ajoute, chez McLaren, alors qu'ils ne visaient pas la victoire ou le podium, mais ils avaient la même réaction, Norris en médium, Piastri en dur. Ça veut dire qu'eux, ils avaient pris en compte le fait qu'il pouvait pleuvoir et qu'une safety car pouvait intervenir à tout moment. Et là, il faut deux jokers, ou il faut deux cartes à abattre, ou une en tous les cas sur les deux, en fonction de la situation qui se présente. Et chez Ferrari, on ne fait pas comme ça. En fait, on a deux plans qui sont assez identiques, jusqu'à ce que Ocon provoque vraiment la réaction chez Ferrari, qui n'était pas prévue, et ce qui a complètement énervé d'ailleurs Sainz, parce que je pense que c'était pas du tout le plan. Mais là où tout a basculé, c'est quand Ocon a passé, je crois, c'est 4 secondes 2 au stand, voilà, ce qui était un petit peu long. Mais le souci, c'est que Sainz était à 2 secondes 6 et que c'était quand même tendu pour faire l'undercut, mais ils ont tenté le coup, et Fred Vasseur l'a très bien expliqué, on a tenté la troisième place. Et c'est ce qu'il fallait faire de toute façon.
Donc on peut même rajouter Charles Leclerc à, on peut même rajouter Carlos Sainz à Charles Leclerc pour avoir manqué le podium ce week-end à Monaco, c'est ça ?
Potentiellement, parce qu'il a talonné sans arrêt Ocon, en fait, jusqu'à l'arrivée de la pluie, jusqu'à ce qu'il y ait un naufrage complet de son côté. Mais le podium était jouable du côté de Sainz plus que du côté de Sainz, de Leclerc. Donc, c'était déjà un petit peu compromis. Il s'est énervé en disant qu'il n'avait plus le même rythme et qu'il avait du rythme avant, mais plus après. Et puis, quelque chose d'encore complètement, encore plus bizarre, chez Ferrari... On a attendu la pluie et on s'est dit, on bouge pas, on rentre pas et on attend une safety car. Alors, c'est quand même de l'énorme spéculation, vraiment. Et ce qui fait que chez Alpine, on a fait rentrer Ocon au 54e tour. Chez Mercedes, on a fait rentrer les deux voitures aussi, tout de suite. Et Ferrari a mis un tour de plus pour faire rentrer ses voitures. Et d'ailleurs, c'est ce qui a causé la perte de Sainz, qui est parti en sucette complète à Mirabeau, façon trophée Andros, j'ai mis, en travers, à l'équerre complète. Et de là, c'était fichu de toute façon. Et Leclerc fait combien ? Il fait 6e. Ouais. Et Sainz 8e, alors que potentiellement, il pouvait faire 4 et 5. Bon, donc c'est vraiment une occasion ratée. Et dans tout ça, en fait, Leclerc a dit, bon, bah, nous, en termes de stratégie, aucun regret. Voilà. Parce qu'on est dans la gouvernance Fred Vasseur, que là, il ne peut pas se permettre de rouer dans les brancards, ce qu'il ne faisait pas vraiment avant, mais il exprimait sa frustration.
Ouais.
Mais là, pour lui, il y avait une sorte de fatalisme. Mmh. Comme tu as dit, effectivement, ce n'est pas de chance. Mais...
C'est ça. J'ai pas senti, en fait, quelqu'un qui se contrôlait, qui faisait du corporate, quoi, qui ne voulait pas contredire son équipe, en tout cas déjuger son équipe. Il m'a donné un sentiment que, bon, de toute façon, ouais, bon, oui, alors moi-même, je serais allé chercher le podium, bon, et alors ? Voilà, on sent que ce qu'il veut, c'est gagner à Monaco, et que s'il n'y a pas de victoire, eh ben, bon, on verra la fois d'après. Ça m'a un petit peu surpris. C'est un garçon qui, d'habitude, a beaucoup de niaque, et là, je l'ai senti un petit peu émoussé, un petit peu déçu, moins combatif. Alors, on remettra sans doute les compteurs à zéro du côté de Barcelone, où il a quelques fantômes à liquider.
Oui, il était coincé derrière Hamilton, il n'a rien pu faire.
Ça a été une course hyper frustrante, en fait.
Mais à Barcelone, là, c'est pareil. C'est là où on va voir vraiment. Et le gros risque, c'est que Mercedes passe devant sur la piste à la régulière. Franchement, Ferrari, ils sont quatrième au championnat constructeur. Ils voient de plus en plus s'éloigner la deuxième place.
Ouais. Il y a de la marge par rapport à Alpine, mais attention.
Oui, mais... Mercedes s'éloigne. Ils
vont se retrouver dans une sorte de no man's land, là.
Complètement, complètement. Et c'est pas du tout le plan. Et là, maintenant, on va quand même finir par décréter l'état d'urgence, je pense. Et il va falloir nous annoncer aussi des recrutements, des choses comme ça, pour muscler le bureau d'études. Parce
ça,
que
c'est
par là que passera vraiment que passeront les progrès.
C'est certain qu'en coulisses, c'est le travail principal de Fred Vasseur en ce moment. Tu parlais justement de Mercedes, on va y revenir, on va y venir justement à George Russell qui, alors lui, a carrément déclaré « j'ai envie de me mettre des baffes », parce qu'il l'a eu à un moment, cette possibilité de monter sur le podium avec cet arrêt un petit peu manqué pour Esteban Ocon. Il a fait le changement au bon moment de pneumatique, ouais. George Russell. Il est avec les pneus intermédiaires et il va s'embarquer là-bas, lui aussi, à Mirabeau, un peu dans la panique. Il revient en piste juste sous le nez de Sergio Perez. Il se fait percuter, donc après, il y aura une pénalité. Mais moi, ça m'a intéressé l'attitude de George Russell parce que il nous a fait presque du Fernando Alonso pendant la course où il discutait avec son équipe en disant il était donc derrière Lewis Hamilton et il disait mais je peux tenter le coup moi sur Esteban Ocon, vous dites à Lewis que je le laisse passer après si j'y arrive pas mais moi je me sens d'y aller garçon tu sais qui c'est devant là c'est Lewis Hamilton. Aucun complexe. George Russell n'a plus aucun complexe face à Lewis Hamilton. Et je trouve que c'est une situation un petit peu spéciale pour Mercedes par rapport aux rivaux directs. Chez Red Bull, Sergio Perez, bon, c'est même plus qu'il y a un complexe par rapport à Verstappen. Il est en terre inconnue. Il est en terre inconnue. Il faut lui envoyer l'émission de France Télé. Il est plus chez lui, Sergio Perez, chez Red Bull. Chez Ferrari, tu sens quand même que Carlos Sainz a une sorte de petit complexe par rapport à Charles Leclerc, qui est chez lui, chez Ferrari. Mais alors, chez Mercedes, il n'y a pas de problème. George Russell voulait pas dire à Lewis de me laisser passer. Je trouve que ça en dit long. Et tu vois le week-end de George Russell. Pardon, je termine là-dessus parce que tout à l'heure, tu m'as dit ça sert à rien de s'énerver sur une séance d'essai libre. Eh bien, regarde le week-end de George Russell. FP1, 15e. On rappelle que Mercedes débarquait à Monaco avec d'énormes évolutions. Hein, suspension, ponton.
Une version B.
Oui, presque une version B, effectivement, de cette voiture. Avec deux directions de réglage. Une pour Lewis Hamilton, une pour George Russell. Manifestement, celle de George Russell marchait moins bien. Donc, première séance d'essai libre, 15e. Deuxième séance d'essai libre, 12e. On peut dire que c'est un vendredi un peu compliqué quand même pour l'anglais. Pas d'affolement. FP3. Troisième séance d'essai libre, donc 11e temps. Là, on dit, tiens, ça commence à venir. Qualif, 8e. Et encore, un peu frustré. Et en course, donc, il termine à la 5e place en ayant envie de se mettre des baffes parce qu'il a manqué le podium. Bah, ça, si c'est pas un week-end bien construit, excuse-moi, je sais pas ce que c'est.
Ouais, alors, on verra encore une fois à Barcelone. Il a eu beaucoup de mal quand même avec cette voiture. Il n'était pas du tout à l'aise. Elle rebondissait beaucoup. Il a fait beaucoup de commentaires là-dessus lors des essais. Hamilton, bizarrement, était content de sa voiture parce qu'en fait, à Monaco, c'était ça aussi un petit peu le problème de Mercedes, c'est qu'il fallait donner du confort aux pilotes avant de la performance et t'essaies de régler la voiture pour passer le cut en Q2 puis en Q3. Et puis après, tu fais comme tu veux et il te faut aussi une bonne voiture pour 78 tours parce que si tu la règles, je dirais très pointue, pour la qualif, tu sais que ça ne marchera pas pour 78 tours. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Hamilton, où il était vraiment, il est passé, mais il a traversé la qualif comme un survivant. Ouais, il a passé le cut, mais de justesse, de Q1 en Q2, puis de Q2 en Q3. Et Russell qui se retrouve à cette position-là de jouer le podium aussi, mais c'est quasiment un miracle. On va voir ce qu'il en sera réellement à Montmélo. Je trouve que les circonstances monégasques ont caché un petit peu, ont masqué un petit peu l'état de cette voiture, dont on ne sait pas encore si elle est un vrai pas en avant, parce qu'Hamilton a parlé de l'effort consenti par tout le monde, parce qu'il fallait les gratifier de toutes ces pièces apportées. Mais après, en termes de perfo, Toto Wolff paraît beaucoup plus mesuré par rapport à ça, et c'est Montmélo qui va donner vraiment le verdict. De ce point de vue-là, efficience aéro, tenue de route dans les grandes courbes rapides et puis usure des pneumatiques.
Oui, alors en fait, il y a effectivement une quête de performance. C'est de la Formule 1, évidemment, tout passe par la performance. Mais je crois que le premier chantier chez Mercedes, c'est de retrouver de la cohérence en fait dans cette voiture où la version sans ponton finalement était totalement instable. Les ingénieurs ont quand même quelques prérequis. On sait que si on bascule un peu l'auto sur l'avant, elle va avoir telle réaction. Si on durcit un peu les suspensions, elle va avoir telle réaction. Et parfois, cette Mercedes avait des réactions totalement inexplicables, y compris pour les ingénieurs. C'est ça, surtout, qu'ils ont voulu enlever avec cette version B de la Mercedes. À partir de là, oui, on peut ensuite bâtir de la performance. Mais je te dis, moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est ce George Russell qui finalement a joué ouais, crânement sa chance.
Le deal qu'il propose quand même à la radio, la ficelle est grosse. Parce que oui. S'il passe Ocon... il laisse.
Bah non, il va pas rendre la
Hamilton
place.
Est coincé, c'est tout. C'est alors, il faut
d'ailleurs,
Hamilton
on lui a dit,
à son tour.
On lui a dit oui. Non, on va rester comme ça.
Il a compris que.
Non, mais je trouve que de dire ça à la radio, ouais. Ça en dit quand même très très long sur. Je veux pas parler d'inversion du rapport de force au sein de chez Mercedes entre Lewis Hamilton
il y a une tendance quand
et
même,
George Russell, mais il y a une tendance Hamilton. De fond. Ouais, et on sent à Lewis Hamilton, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de l'entourage de Lewis Hamilton. Il y a beaucoup d'entourage de Lewis Hamilton, Grand Prix après Grand Prix. On sent qu'il a besoin, d'être entouré, il a besoin d'être cajolé en ce moment, d'attirer aussi peut-être un petit peu plus les médias vers lui, parce que petit à petit, les caméras elles se tournent de l'autre côté du garage en se disant « il se passe peut-être quelque chose avec George Russell à suivre ». Mais il a loupé le podium, clairement, du côté de Monaco. Il a envie de se donner des baffes. Ça aussi, je trouve que c'est génial, parce que dans la communication... Il y a quelque chose de vrai, quoi. Un pilote qui descend de la voiture et qui dit « Oh là là, j'ai envie de m'éclater la tête contre les murs. » Ça parle, enfin, voilà. Il y a comme ça des pilotes qui sont vrais. Et on verra ce que ça donnera effectivement à Barcelone pour George Russell. Mais moi, j'ai bien aimé son attitude, même si, évidemment, il aurait préféré, lui, terminer sur le podium. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. On pourrait élargir. Hein. Il y avait tellement de choses à dire sur ce Grand Prix de Monaco. Oh, je crois que ce qui nous attend du côté de Barcelone, ça va aussi être très très instructif, parce que Monaco, on l'a dit, c'est totalement atypique. Barcelone, on va commencer à avoir vraiment une vraie radiographie maintenant de l'état des forces en présence, avec des grands favoris redbulliens. Mais là aussi, on va voir si Pérez se remet de son chaos monégasque. Et puis, on va voir un peu où en est Mercedes par rapport à Aston Martin et Ferrari et Alpine. Il va y avoir plein de choses à surveiller, Stéphane. C'est toi aussi qui es sur le pont ce week-end
Non.
Non.
Ce sera
repos
Oui, tout à fait. Julien,
Julien Pereira.
Qui suivra ça de près.
Donc évidemment, à suivre sur le site eurosport.fr. Et puis bah, nous, on en reparle la semaine prochaine dans les fous du volant. Je vais te faire une petite infidélité, mon cher Stéphane, parce que bah, oui, il y aura le week-end prochain, il y a pendant le Grand Prix de Catalogne, le pesage des 24 heures du Mans. Et je serai plutôt place de la République au Mans.
Je te comprends.
Bien. Avec un œil sur le circuit de Catalogne. Je passerai vous faire un petit coucou pendant les fous du volant la semaine prochaine.
Oui, eh ben écoute, ça va être le grand événement, vraiment un centenaire qu'on attend, qui va être fantastique. On va suivre ça de façon intense sur les antennes d'Eurosport. Ça va vraiment être énorme.
Ouais, je confirme. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le fou du volant post Grand Prix de Catalogne.
D'Espagne.
D'Espagne, oui, pardon. Et puis bah, d'ici là,
on coupe le contact.